monde autour de vous, monsieur Vidal.
C'est normal, hein, Laetitia.
Eh bien oui, c'est le club.
Nous sommes vendredi, voilà, exactement. Et vous avez votre carte ?
Je ne suis pas assez douée pour
bon,
encore.
Je vous la
j'écoute,
fais.
Moi. Tout à l'heure.
À tout à l'heure, merci. Publications, recherches et découvertes scientifiques tous les vendredis donc dans le club des Têtes au Carré. Nous revenons avec nos invités sur quelques-uns des faits marquants de la planète science. Au menu de nos discussions cet après-midi, le point sur le virus Ebola, l'homme de Néandertal qui n'en finit pas de nous étonner, une découverte en Angleterre sur le fameux site de Stonehenge et puis une véritable révolution avec un domaine de recherche en plein essor, celui de la microfluidique. Mes invités pour développer tous ces sujets, Jean-Claude Manuguera, Francisco Derrico et Elodie Brun-Litzler, Patrick Tabling et Cyril Marcini. Bonjour à tous.
Bonjour.
Et bienvenue. Ebola, où en est l'épidémie avec une propagation rapide et sans précédent? On fera le point dans quelques minutes. Donc avec vous, Jean-Claude Manuguera, vous êtes virologiste à l'Institut Pasteur. L'homme de Néandertal, capable de représentations abstraites et figuratives, c'est la découverte d'une gravure dans une grotte espagnole qui vient chambouler une fois de plus la perception de notre cousin. On en parlera avec l'archéologue Francesco Derrico qui a fait partie des découvreurs de cette gravure. Une semaine décidément riche en archéologie, à Stonehenge en Angleterre, des chercheurs viennent de révéler l'existence de 15 monuments souterrains inconnus jusqu'ici. Cyril Marcini, vous êtes chargé de recherche à l'INRAP. Vous connaissez très bien ce site de Stonehenge et vous nous direz ce que nous apprend cette découverte au pays des druides. Et puis lundi ont été lancés à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes à Paris les travaux de la future plateforme destinée au développement de systèmes microfluidiques. Et on nous promet une révolution, paraît-il, au service de l'homme. Elodie Brun-Litzler, vous êtes biochimiste. Patrick Tabling, vous êtes physicien et directeur de l'Institut Pierre-Gilles de Gênes. Vous êtes l'un des pionniers de la microfluidique en France. Et bien sûr, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit et ce qui nous attend. C'est passionnant dans ce domaine. Voilà donc pour les sujets de notre club des Têtes au Carré. Vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions en direct, franceinter.fr et bien sûr vos messages courts sur Twitter avec le hashtag LATAC. C'est François Mercier qui a préparé le dossier aujourd'hui et l'émission est réalisée par Violaine Ballet.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
We'll be right back. We Are Family avec Sister Sledge sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Voilà la grande famille des scientifiques tous les vendredis avec le club des têtes au carré. Au menu aujourd'hui, donc, on va parler du virus Ebola, des dernières révélations sur l'homme de Néandertal, des découvertes sur le site anglais de Stonehenge et la révolution microfluidique, sujet dont nous parlons bien sûr avec vous et vos questions, franceinter.fr et sur Twitter avec le hashtag l'attaque. Ebola, où en est l'épidémie? C'est le premier sujet de cette actualité cette semaine. Jean-Claude Manuguera, donc vous êtes virologiste, vous êtes souvent venu dans l'émission, directeur de la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur et membre du comité de pilotage du réseau mondial d'alerte et d'action pour les épidémies au sein de l'OMS. Est-ce que nous sommes en train de perdre la bataille contre la pire épidémie d'Ebola, comme l'a affirmé Médecins Sans Frontières très récemment, Jean-Claude Manuguera?
Alors j'espère qu'on arrivera à gagner la guerre, mais pour l'instant on ne gagne pas beaucoup de batailles, puisque en fait l'épidémie va plus vite que la dernière fois que j'étais venu.
Vous le dites, c'était il y a 15 jours.
Voilà, hein. Il y a 15 jours, puisque on est à peu près à 120 cas par semaine nouveaux. On en est maintenant à 400, l'épidémie... Alors, on n'attendait pas une inversion de la courbe avant deux mois,
oui.
Mais pour l'instant, on est loin de ce point-là, et bon, même si on ne l'attend pas tout de suite. Une autre nouvelle qui n'est pas très bonne, je suis désolé, mais récemment, je crois que la semaine dernière, a été publiée dans la revue Science, une petite centaine de génomes complets de virus Ebola d'Afrique de l'Ouest. Et pour la première fois, ce qu'on observe, c'est que le virus mute, il évolue. En fait, avant, il n'avait pas le temps de s'adapter à l'homme parce qu'en fait, les épidémies étaient courtes.
Oui.
Et là, en fait, on a des virus qui mutent et qui pourraient bien changer de capacité, peut-être devenir moins sévère, mais peut-être plus transmissible. Enfin, c'est des scénarios qu'il faut prendre en compte.
Et, oui. Mais ce sont des mauvaises nouvelles.
Ah bah, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que le virus a la plasticité. Une plasticité qu'on ne connaissait pas en tous les cas chez l'homme, et donc il a éventuellement des possibilités de s'adapter, de rester chez l'homme. Et une de mes craintes, c'est qu'on puisse passer d'épidémies qui partagent à la fois du réservoir animal, mais qui pour lequel l'espèce humaine n'héberge pas le virus de manière permanente. On passe à un système où le virus, de manière permanente, circule chez l'homme quelque part et crée des cycles endémie-épidémie.
Ouais, donc mutation du virus, ça veut dire de nouveaux virus Ebola,
différent. C'est-à-dire que pour l'instant, le virus, on voit bien, c'est un peu un virus, il est suicidaire, c'est-à-dire qu'il tue beaucoup trop de personnes pour pouvoir espérer se maintenir dans une chaîne. Comme maintenant, il arrive à se maintenir dans une chaîne depuis... au moins décembre 2013, hein, on est au mois de septembre maintenant, eh bien peut-être qu'il va acquérir un autre mode de relation avec l'espèce humaine, et peut-être s'il devient moins méchant individuellement, peut-être en absolu créer plus de cas. Donc ouais. Ça, c'est un scénario un peu... on n'en est pas encore là, mais c'est maintenant qu'il faut agir, parce que sinon, il sera trop tard et on aura plutôt un scénario VIH qu'un scénario SRAS.
C'est-à-dire ?
Et ben, dans le VIH, on n'a pas vu les choses venir assez vite, on n'a pas tapé assez fort et le virus était déjà dans la population sans qu'on puisse l'arrêter. Le SRAS, on a réagi très vite, on a pu contrôler l'épidémie et le virus a été éliminé de la population humaine. Mmh. Donc, j'aimerais bien que ce soit le scénario du SRAS.
Oui. Cet emballement du nombre de cas, ça vous surprend ou au fond, dans les prédictions, dans les modélisations en tout cas, on a pu avoir déjà un scénario tel qu'il existe aujourd'hui?
Bon, les modélisations permettent de comparer des stratégies, permettent d'avoir de comparer des stratégies, mais ne prédit pas l'avenir. Donc, ouais. En fait, si on regarde les courbes, pour l'instant, probablement que le nombre est un peu sous-estimé quand même. Hein, mm-hmm. Mais la situation n'est pas du tout surprenante. On est dans Liberia, Sierra Leone, système de santé qui n'existe pas. Et au Liberia, les soignants n'ont même pas de gants. Donc, on les envoie au casse-pipe et puis ils ne veulent plus y aller. Ils ont bien raison.
Élodie demande sur franceinter.fr, combien de pays à peu près sont maintenant touchés par cette épidémie? Est-ce qu'on découvre de nouveaux pays régulièrement sur le continent africain ou pas?
Alors pour l'instant, il y a trois pays dans lesquels il y a une transmission active du virus. Hein, c'est les trois dont on a déjà parlé, c'est-à-dire la Guinée, Conakry, le Sierra Leone et le Liberia. Mmh. Il y a eu des cas importés, pour l'instant sans doute maîtrisés, au Sénégal et au Nigeria. On verra bien si on arrive à maîtriser dans ces pays-là. Et puis, il y a des pays pour lesquels on a forte suspicion, mais pour lesquels on ne sait pas. Probablement à la frontière avec les pays infectés. La Côte d'Ivoire, par exemple, pour l'instant, il n'y a pas de cas. Mais est-ce que c'est parce qu'on ne les voit pas, parce que ce sont des cas dans les forêts très proches des pays infectés? Oui. Donc ça, on surveille ça comme le lait sur le feu.
140 millions d'euros débloqués par Bruxelles. Donc la nouvelle vient de tomber pour lutter contre le virus. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est un petit peu le réveil de la communauté internationale ou pas?
Je pense que les Américains ont fait beaucoup d'efforts et que les Européens étaient un peu timides. Je crois qu'on était à 10 fois moins que ça pour l'instant en termes. Mais c'est effectivement une bonne nouvelle. Je pense que l'Europe aussi réalise que pour ces pays-là, c'est une crise sanitaire, mais que ça sera aussi probablement une crise alimentaire. Une crise qui va toucher aussi d'autres des maladies qui sont autres. Hein. Les gens se font plus soigner pour leur VIH. Les gens se font plus soigner parce qu'ils n'osent pas aller dans les structures de soins où il y a de l'Ebola. Et donc
on a des effets collatéraux. Voilà.
Bien sûr. Et puis, il va y avoir des effets économiques. Hein, puisque la FMI, je crois, prédit de moins 1 à moins 2% donc une récession.
Ouais. D'où l'urgence de réagir le plus vite possible, parce que plus on attend, évidemment, et plus ses conséquences seront désastreuses.
Alors, le virus risque de s'installer de manière définitive dans l'espèce humaine, première chose, et donc c'est ça.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le virus pourra devenir indépendant de la source animale qui fait le départ de chaque épidémie. Et donc ça, il faut absolument l'éviter. Donc ça c'est pour la première chose. Et deuxième chose, même si on arrive à éviter ça, en fait il y aura encore beaucoup plus de morts et plus on tarde et plus ça sera cher et plus ça sera dur.
Donc l'homme porteur lui-même du virus.
Mais l'homme deviendrait un réservoir, c'est-à-dire qu'il s'affranchirait.
Comme les chauves-souris au fond, hein, c'est ça?
Voilà. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, le virus pourrait circuler de manière indépendante de sa source animale dans la population humaine.
Mmh. L'OMS réunit 200 experts à Genève depuis hier hein, pour discuter des vaccins et des traitements pour les malades. Qu'est-ce que ça donne, là, a priori, sur ce front-là?
Alors, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas tout à fait pour cette épidémie, hein, parce que là, c'est d'autres moyens qu'il faut agir. Oui. Ben, acheter des gants, déjà. Ce qui est intéressant, c'est de regarder quelles sont les possibilités pour la prochaine épidémie. Et notamment, il y a 8 traitements qui sont passés en revue et 2 vaccins. Ben, pour l'instant, on a
l'impression que ça bouge quand même dans ce domaine-là.
Oui, ça bouge.
Il y a beaucoup de laboratoires qui sortent des choses là en ce moment.
Des laboratoires qui sortent des choses qui existaient
pour d'autres recherches.
Oui, qui existaient pour d'autres maladies. Hein. Par exemple, une des molécules sur lesquelles se fonde pas mal d'espoir, c'est une molécule qui a été développée contre les virus grippaux, par exemple, et qu'on essaie contre Ebola. Le fameux IMAP, hein, le cocktail d'anticorps. Alors là, maintenant, les résultats sont parus depuis la dernière émission.
Ouais.
Et donc, ça marche très bien chez les singes, à des doses très fortes. Et comme les singes sont très sensibles, si ça marche chez eux, ça devrait bien marcher chez l'homme.
C'est ce qui a fonctionné sur les deux Américains qui ont été soignés.
Tout à fait.
Et donc, évidemment, depuis, les singes sont étudiés de très près et il y a très bons résultats.
Alors, sur les singes, c'est excellent résultat avec des doses fortes. Le problème de ce cocktail d'anticorps, c'est qu'en fait, la production est extrêmement, extrêmement, extrêmement limitée. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle dans la bonne nouvelle.
Et pourquoi on ne peut pas en faire plus, alors?
Bien parce qu'en fait, c'est développé par une société qui est une société qui développe hein, qui n'était pas encore passée au stade industriel. Et donc,
c'est une affaire d'argent, tout bêtement.
C'est une affaire aussi de calendrier, de développement. Enfin, tant qu'il n'y a pas de demande, c'était vraiment de l'étude. Et puis, le système employé pour produire, c'est des plantes qui produisent ces anticorps. La production n'est pas très forte. Et donc, il faut planter plus de plantes. Tout ça prend du temps. Et voilà, c'est un peu dommage.
Élodie Briand-Litzer. Vous avez travaillé à Pasteur d'ailleurs, hein. Vous
êtes biochimiste, je le rappelle.
Vous avez fait votre thèse là-bas. Oui.
On se connaît, Jean-Claude et moi. Donc, je vais peut-être te poser la question des outils qui sont actuellement utilisés sur le terrain pour dépister la maladie.
Alors pour l'instant, essentiellement, alors sur le terrain, c'est des techniques qui sont encore un peu compliquées, qui ne peuvent pas être faites tout près du malade. Donc en fait, par exemple, à Conakry, c'est fait dans un laboratoire qui est à 200 mètres du centre de traitement. Et les tests se font par PCR, c'est-à-dire par amplification génique en chaîne, qui demande du matériel un peu sophistiqué et surtout beaucoup de manipulation. Les machines sont extrêmement sensibles aux coupures de courant qui arrivent tout le temps. Donc ça rend un peu les choses un peu difficiles, mais ce sont des tests qui sont sensibles, pour lesquels un résultat négatif avant 3 jours nécessite un deuxième essai. Et au-delà de 10 jours, on passe à la sérologie.
D'accord.
C'est-à-dire la recherche d'anticorps chez le patient.
Sur Twitter, David nous pose cette question. Y a-t-il un risque que le virus mute pour se répandre hors des zones endémiques actuelles? Je pense à une pandémie mondiale.
Oui, on voit qu'il mute, donc il peut le faire. Il pourra d'autant plus sortir de son berceau, enfin la maladie, l'épidémie, que le virus pourra circuler sans avoir besoin de réintroduction dans l'espèce humaine. C'est-à-dire que l'épidémie ne s'éteigne pas. C'est un peu comme les, c'est un peu comme les virus grippaux qui viennent des oiseaux, qui arrivent à passer chez l'homme. Et une fois qu'ils sont passés chez l'homme, ça devient des virus humains qui n'ont plus besoin des oiseaux pour circuler.
Ouais. En imaginant ce scénario du pire, ça pourrait se faire dans un délai rapide ou pas ? Vu aujourd'hui, en tout cas, les chiffres et le nombre de cas qui se multiplient.
À l'échelle de, on va parler tout à l'heure avec
de l'archéologie, oui, évidemment,
l'archéologie de l'âge de bronze,
c'est très rapide.
Ça sera très rapide. Les virus sont des structures vivantes entre guillemets qui sont extrêmement plastiques et rapides.
Ouais. Ebola, c'est également sous haute surveillance à Lyon, dans un laboratoire, le P4 Jean Mérieux, qui est un laboratoire assez unique en son genre. Mais c'est là qu'on manipule des virus comme Ebola. C'est pas pour foutre la trouille aux Lyonnais, mais enfin pas loin de chez eux. Non, mais il y a quand même des scientifiques avec évidemment des conditions très particulières de sécurité. Hein. C'est quasiment des cosmonautes. Hein.
Oui, enfin pour l'instant on n'a pas eu de cas d'épidémie qui soit parti de laboratoires de recherche dans le monde. Voilà. Depuis le début de la recherche.
Mais quand même, on étudie Ebola là-bas.
Bien sûr. Mais les virus, on les manipule à Conakry avec des installations qui sont beaucoup moins sophistiquées.
Oui. Combien de personnes pourraient mourir à cause du virus Ebola ? Certaines personnes parlent de milliers, de centaines de milliers de morts.
Alors, bon, il faut faire attention parce qu'on a eu beaucoup... pour l'instant, l'OMS dit 20 000, hein, mais ça sera probablement beaucoup plus vu la tendance actuelle. Je pense qu'il faut pas, donner des chiffres parce que les modélisations sont pas, ne permettent pas de prédire l'avenir. C'est simplement des scénarios. Et puis, si on a des chiffres qui sont trop gros, on va affoler pour rien. Et si on a des chiffres trop petits, on risque de refroidir l'ardeur des bailleurs de fonds à donner de l'argent pour arrêter cette épidémie.
Ouais. Merci Jean-Claude Manuguera. Ebola, une peste du 21e siècle. Point d'interrogation, c'est la question que posera dimanche Stéphane Paoli dans 3D à midi donc sur l'antenne. Pour évoquer les défenses dont nous disposons aujourd'hui dans un monde multiconnecté avec des pandémies qui sont désormais justement planétaires. Donc rendez-vous dimanche avec Stéphane Paoli si vous souhaitez en savoir plus à midi. L'homme de Néandertal toujours plus évolué qu'on ne le pensait. Une découverte réalisée dans une grotte de Gibraltar en Espagne montre que notre cousin a été à l'origine d'une gravure pariétale. Néandertal était donc capable de produire des représentations abstraites et figuratives, ce que l'on pensait être réservé à nous les hommes modernes. Francesco De Rico, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, directeur de recherche au CNRS de Bordeaux, et vous avez participé à cette découverte dont les résultats ont été publiés lundi dans la revue PNAS. Alors cette gravure, c'est une grande première dans ce que l'on connaît de Néandertal ?
C'est une grande première pour une gravure sur une paroi d'une grotte, plutôt sur une, pas vraiment sur une paroi verticale, elle était trouvée à plat. Mais il y a d'autres éléments dans la culture matérielle des Néandertaliens qui font penser qu'ils avaient des capacités symboliques. Par exemple, les Néandertaliens utilisaient des pigments, ils faisaient des sépultures. Et dans les dernières années, on a vu qu'ils étaient intéressés à ramasser des plumes de rapaces et des griffes de rapaces. Mm-hmm. Donc, il y a des éléments qui font penser que les Néandertaliens, surtout les derniers Néandertaliens, avaient des cultures relativement complexes. Mais cette découverte est la première d'une gravure effectuée sur les parois d'une grotte.
Oui, gravure d'art abstrait. Donc ça, c'est vraiment une découverte. Jamais on avait attribué cela à Néandertal.
Peut-être qu'il y a des gravures de ce type, mais on n'avait pas fait par les Néandertaliens, mais on ne pouvait pas les attribuer aux Néandertaliens, parce que quand vous trouvez une gravure dans une grotte, il n'y a aucun moyen pour la dater. Tandis qu'à Gibraltar, les collègues de Gibraltar qui ont fait la découverte ont découvert cela après avoir fouillé des couches archéologiques remplies d'outils produits par les Néandertaliens, ce qui démontre donc le fait que la gravure précède ces couches archéologiques.
Ouais. Alors expliquez-nous justement un petit peu dans les détails, Francesco De Rico, comment on s'y prend précisément pour attribuer une gravure. Donc il faut imaginer une sorte de croix, c'est ça, dans la pierre ?
Oui, dans ce cas, ce n'est pas très grand, c'est une vingtaine de centimètres sur une quinzaine de centimètres, c'est une zone à plat dans la grotte. Cette zone à plat était couverte par des couches archéologiques. Donc, en terminant la fouille, les collègues ont découvert quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Et la première question qui se pose, c'est est-ce que ces sillons sont naturels ? Donc, on a mesuré des fissures dans la grotte pour bien montrer que ces gravures n'avaient rien à voir avec la morphologie
l'érosion,
de la paroi.
Oui.
Et par la suite, on a reproduit cela expérimentalement en faisant des gravures et d'autres types d'actions, par exemple de découpe, de viande, de peau sur la même roche. Et on a aussi étudié au microscope l'intérieur des traits, ce qui a permis de montrer qu'il y avait encore des résidus d'estrie produits par les outils à l'intérieur. Et en étudiant la morphologie des traits et la dimension des traits archéologiques expérimentaux, on a vu que ces gravures étaient faites par une pointe robuste qui a servi à graver et qu'en plus, plusieurs traits avaient été approfondis par un passage répété. On a même pu calculer le nombre minimum et maximum de passages nécessaires pour faire l'ensemble de la gravure. Et on arrive à la conclusion qu'entre 200 et 300 passages ont été nécessaires pour faire des traits aussi profonds sur une roche qui a cette dureté. Voilà. Donc, en effet, cela montre qu'il y a une volonté du graveur néandertalien de produire des traits suffisamment profonds pour qu'ils deviennent visibles.
C'est une véritable enquête policière, en fait, que vous menez, hein, puisque vous arrivez à avoir suffisamment d'éléments pour reconstituer cette histoire.
Oui, c'est tout à fait. C'est une enquête policière qui, dans ce cas, aussi impliquait une reconstitution 3D de la gravure à partir de photos prises avec plusieurs angles. Donc, on a des programmes qui nous permettent de reproduire la 3D, même d'imprimer la gravure sans jamais l'avoir touchée, aussi pour des raisons de conservation, parce que donc la gravure pourrait s'abîmer dans le futur. Et on essaie de, en effet, produire un modèle expérimental de la gravure pour pouvoir reconstituer les gestes du graveur.
Alors cette gravure, elle était recouverte. Elle était dans quel état de conservation quand vous l'avez découverte?
Bon, la couche archéologique avait été déjà enlevée. Ce qui est particulier dans cette gravure, c'est qu'elle est couverte par une fine croûte noire qui a permis sa conservation et qui probablement est le résultat d'une altération des sédiments. On sait qu'il y avait, dans un certain moment, il devait y avoir des couches de guano, de chauve-souris, qui ont altéré les sédiments et qui ont produit donc cette croûte qui est un mélange de manganèse et de fer, et assez dur, qui a protégé les traits.
Donc ça, c'est tout à fait favorable à la conservation justement de la gravure, hein?
Oui, c'est un fait exceptionnel, donc qui a contribué et qui d'ailleurs démontre aussi que la gravure n'est pas un faux qui a été fait par exemple par les fouilleurs. Donc
oui.
C'est quelque chose qui a pris des milliers d'années pour se former.
Vous l'avez daté précisément donc à quelle époque cette gravure?
Ouais. Mais la gravure en elle-même ne peut pas être datée, mais les couches archéologiques qui la couvraient ont des dates qui s'étalent entre 30 000 et 39 000 ans. Donc la gravure est plus ancienne que 39 000 ans. Mais on ne peut pas savoir si elle est beaucoup plus ancienne, bien que les traits sont suffisamment bien conservés pour penser qu'elle ne devait pas être beaucoup plus ancienne que la date la plus ancienne de la couche archéologique.
Donc, il faut imaginer que cette gravure a été réalisée par les derniers Néandertaliens, en fait.
Oui, par les derniers Néandertaliens qui ont habité ce site autour de 40 000 ans.
Est-ce que vous avez une idée de la signification de cette gravure? Parce que là, c'est aussi intéressant de se dire, mais qu'est-ce que ça peut représenter? Pourquoi ils ont fait ça?
Et je ne le sais pas, mais l'endroit où ils l'ont fait, si on visite la grotte, est assez impressionnant, parce que c'est la seule zone où il y a une sorte de table en pierre avec une partie absolument horizontale. Et on a l'impression qu'il sert pour marquer certaines zones de la grotte, une zone à laquelle tout le monde en passant pouvait la voir. La signification est naturellement quelque chose de tout à fait spéculatif, et d'ailleurs des choses qui nous semblent abstraites peuvent au contraire être apparues totalement figuratives pour les personnes qui les ont faites.
Oui.
Donc c'est assez difficile à ce stade, avec une seule gravure, pouvoir dire quelque chose sur la signification.
Oui, puisque vous le disiez, il y a eu entre 200 et 300 passages avec un outil pour justement creuser cette gravure.
Oui, sur le fait que ce dessin, on peut dire, est volontaire, il n'y a pas de doute. Donc je dirais qu'il y a clairement une motivation et il y a aussi une compétence de graveur pour pouvoir réaliser l'œuvre. Mais la signification, malheureusement, est probablement perdue pour toujours.
Ah bon, vous pensez?
Mais il faudrait trouver pour cela éventuellement un référent figuratif. À l'art du paléolithique supérieur, parfois on a des représentations abstraites qui nous apparaissent comme abstraites, mais on voit aussi des représentations bien plus figuratives, et on fait le lien entre les deux. par exemple, une forme en V, on sait que ça représente un bouquetin, parce qu'on a d'autres représentations de bouquetin où l'animal est dessiné d'une manière beaucoup plus explicite. Donc il faudrait arriver à ça, mais c'est un peu tôt. C'est la première gravure néandertalienne. Naturellement, c'est vraiment tôt pour pouvoir dire à quoi elle peut faire référence.
Combien de temps est-ce que vous avez mis avant d'attribuer cette gravure à Néandertal, et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là?
L'attribution, je dirais, elle vient de la fouille elle-même. Donc du fait que la couche archéologique qui couvre la gravure est bien remplie d'outils néandertaliens. Le travail sur la gravure, il a pris plus d'un an. Donc un travail sur le terrain avec un microscope portatif qui a permis de prendre des photos, des traits, la reproduction expérimentale, donc la quantification, la création du modèle 3D. Ça a pris un an du travail sur le site jusqu'à la publication de l'article.
Est-ce que cette gravure reste une exception selon vous ? Ou au contraire, c'est quelque chose qui pourrait être très répandu?
Je pense que c'est quelque chose qui peut être répandu. Probablement, il y a d'autres gravures de ce type, mais qu'on n'arrivera jamais à attribuer avec certitude aux Néandertaliens, parce que c'est des sites qui ont déjà été fouillés. Donc il n'y a aucun moyen pour les dater. Il est aussi possible que ce type de gravure soit présent seulement dans une partie du monde néandertalien. Comme nous savons, il y a des zones du Palétique supérieur en Europe dans lesquelles, par exemple, les chasseurs-cueilleurs du Palétique supérieur n'ont pas nécessairement visité les grottes ou n'ont pas fait des représentations comme celles que nous connaissons à Lascaux ou à Chauvet.
Francesco Derico, décidément, Néandertal n'en finit pas de nous surprendre. Hein. La grosse brute épaisse et pas très évoluée, c'est définitivement à reléguer au rayon des antiquités scientifiques.
Je le pense, bien que les Néandertaliens ont des particularités et que les cultures du Palétique supérieur soient des cultures qui présentent une complexité, mais peut-être plutôt une complexité sociale, une complexité dans les modes de représentation qui est évidente. Donc il y a clairement des différences, mais il y a aussi des différences très fortes dans les cultures actuelles, et cela ne nous empêche pas tous d'appartenir à la même espèce et d'avoir la même cognition.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait découvrir des peintures rupestres attribuées à Néandertal, selon vous ?
Pourquoi pas ? Les Néandertaliens utilisaient des pigments noirs et rouges, et à certaines époques, des grandes quantités de pigments rouges. Donc, on a chez les derniers Néandertaliens des restes d'utilisation de peintures, par exemple, sur des objets. Il y a en Espagne une coquille Saint-Jacques qui est peint d'un mélange de rouge et de jaune sur une face, seulement la face qui est blanche et l'autre face qui est naturellement rouge n'a pas été remplie de pigments. Donc je dirais au moins une palette de Néandertaliens est déjà connue. Pour la peinture, il faut encore attendre un peu.
Merci beaucoup Francesco Derico donc pour les explications autour de cette première découverte d'une gravure pariétale attribuée à l'homme de Néandertal et qui a fait l'objet donc d'une publication lundi dans les PNAS. Merci à vous.
Merci à vous.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Les cœurs battent et les yeux brillent. L'importance du coloris pour
comme je suis. Pas la peine de l'imiter. Mon monokini, je ne l'enlève que pour lui. Et si les gens s'éteignent, les baisers que l'on donne,
que Dieu pardonne les pécheurs que nous sommes.
Ici on nous sermonne comme des glas que l'on sonne. Les cœurs battent et les yeux brillent. C'est mono, mono kini.
Fini le bicoloré. C'est péché.
Des yeux, ils me déshabillent. Et ils me voient comme je suis. Pas la peine de l'imiter.
Mono, mono kini. Près du cœur, mais si loin de moi.
Mono, mono kini. Je n'enlève que pour lui. Là-bas.
Allez, un petit rap de vacances en plus avec le monokini d'Adrien Gallo à l'instant sur France Inter, le club des têtes au carré. Nous allons maintenant partir sur le site de Stonehenge. On reparle d'ailleurs d'archéologie. Et puis ensuite, on vous fera découvrir la microfluidique. Et du côté de Stonehenge, donc, une équipe d'archéologues vient de révéler l'existence de 15 monuments souterrains inconnus jusqu'ici, donc sur ce site mégalithique à 152 km de Londres, très précisément. Cyril Marcini, vous êtes donc archéologue, chargé de recherche à l'INRAP. Et vous connaissez bien les lieux puisque vous travaillez sur les échanges transmanches à l'âge du bronze, donc c'est l'âge de Stonehenge.
C'est en partie l'âge de Stonehenge, oui. Ouais. Donc Stonehenge, tout le monde connaît les trilithes de pierre, hein, c'est une image
assez connue,
que tout le monde véhicule.
Vous pouvez nous la redécrire quand même.
Je peux redécrire le cendre de Stonehenge. Donc les trilithes de pierre, c'est un assemblage de pierres, un peu plus de 50, hein, qui forment un cercle. Voilà. Mais ce qu'on connaît moins, c'est tout ce qu'il y a autour de Stonehenge. Déjà, rien que le petit cercle de Stonehenge qui fait une trentaine de mètres, c'est que la partie émergée de quelque chose qui est un peu plus grand, qui fait une centaine de mètres, qui est un henge, qui a été fondé au début du 3e millénaire, en 2900 avant Jésus-Christ,
ouais.
D'après les dernières dates radiocarbone, au néolithique, donc pas encore à l'âge du bronze, à l'extrême fin du néolithique. Et c'est un monument comme ça qui va avoir une vie un peu longue, hein, qui va être sans cesse modifié, reconstruit, hein, jusqu'à environ 1500 avant Jésus-Christ. Donc là, pour le coup, en plein dans l'âge du bronze, durant l'âge du bronze moyen.
Ça s'appelle donc, ça veut dire les pierres suspendues, hein, Stonehenge, c'est ça. À peu près. Jean-Claude Manuguera, vous connaissez le site, vous y êtes déjà allé?
Oui, moi j'y suis déjà allé il y a très longtemps, lorsque j'étais postdoc à Londres, et j'ai fait le déplacement de Wiltshire, là où il y a au Stonehenge. Oui. Et c'est effectivement un endroit
qui vous laisse des souvenirs impérissables.
Magique, même si on ne connaît rien. Et j'ai une question, je me suis laissé dire, mais est-ce que c'est vrai qu'en fait les pierres qui sont sur le haut ont été mises récemment sur le haut?
Certaines ont été restaurées. En fait, il y a eu des grosses fouilles dans les années 50 et certaines pierres ont été redéplacées pour être mises en place.
Ah oui.
Mais il y a aussi des pierres qui gisent encore à côté qui n'ont jamais été restaurées.
Ouais. Élodie Brien-Litzler, vous connaissez, vous, Stonehenge ou pas?
J'ai jamais eu la chance d'y aller. Bon, par contre, forcément, on en a entendu parler. Et peut-être vous pouvez me rafraîchir la mémoire parce que j'avais entendu que sur le site de Stonehenge, il y avait quelque chose de particulier avec le soleil, les solstices et les alignements.
Oui, dès la première phase. Hein, dès la création du monument, il est orienté sur les points cardinaux. Il y a des pierres qui permettent de mesurer certains solstices. Enfin, voilà. Donc, c'est avant tout un calendrier, Stonehenge.
Ah oui.
Et au fur et à mesure qu'il va être construit, cette fonction de calendrier solaire va être conservée. En tout cas, c'est une des hypothèses, hein, qui est assez valide, hein, parce que ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Et c'est une hypothèse qui date, hein, parce que les premières personnes qui ont travaillé dessus, c'est au XVIIIe siècle.
Ouais.
C'est William Stokely qui a mis ça en évidence.
Et il y a beaucoup d'hypothèses pour expliquer véritablement la fonction de ce lieu, où on a quand même quelques certitudes?
Il y a de plus en plus d'hypothèses au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, forcément. Oui. Les dernières en date, c'est que c'est un lieu qui permettait d'enfermer le bruit, le son. Voilà, quand on est à l'intérieur, le son est différent et ne sort pas vraiment vers l'extérieur. Ouais. Voilà, il y a 4-5 ans, c'était un centre de guérison pour les gens du néolithique et de l'âge du bronze, puisque les pierres bleues avaient une fonction curative. Enfin voilà, c'est...
Ouais.
Il y a souvent des choses qui ressortent.
Ouais. Et il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de Stonehenge. Fatalement. Lieu assez particulier quand même. Hein.
Parmi l'image véhiculée, il y a les pierres et il y a les druides qui se promènent autour, forcément. Voilà. Quoi.
Mais vous en avez vu, vous, là-bas,
sur place? Jamais. Rencontré. C'est vrai, ni là-bas, ni ailleurs, d'ailleurs.
Voilà, vous non plus, Jean-Claude Manuguera, à votre époque, donc, quand vous étiez jeune, étudiant, non, vous n'avez pas croisé de druides à grande barbe?
Non, bon. Ni de fantômes.
Alors, il faut parler évidemment de cette découverte qui a fait l'objet d'une publication. Donc, 15 monuments enfouis, à quelle profondeur d'abord? Et comment se fait-il qu'il n'ait jamais été découvert auparavant?
C'est pas très profond, hein, c'est quelques mètres.
Cassez pas la magie quand même.
Non, mais en fait, c'est un nouveau programme qui s'est mis en place il y a 4 ans. Quoi. Ça a commencé en 2010 hein, par l'Université de Birmingham. Ils ont lancé un vaste programme de géophysique. Donc, il y avait déjà eu des prospections géophysiques, LIDAR, mais sur des petits secteurs, en fait. Oui. Et là, c'est 15 km², un petit peu plus, hein, qui ont été prospectés en géophysique. Et ça a permis d'avoir une véritable carte archéologique du sous-sol autour de Stonehenge. Mmh. Et parmi ces découvertes, il y a quelques nouveaux tumulus et aussi des alignements en pierre, peut-être un cromlech. Enfin, voilà,
un
cromlech, un cercle de pierre.
D'accord, merci.
Voilà, donc excusez-moi. Donc voilà, il y a de nouveaux éléments qui sont apparus, qui mériteraient maintenant une enquête introspective, donc des sondages, une fouille archéologique, ce qui n'est pas encore programmé du tout pour l'instant.
Ouais, il paraît que le climat qui a été particulièrement sec dans la région a permis justement la découverte aussi de ces monuments, c'est vrai?
Oui, ça c'est une autre découverte qui a fait grand bruit. Un petit problème d'arrosage sur les magnifiques pelouses autour de Stonehenge ont révélé la fin du cercle de pierre, tout simplement. Donc, il y avait des hypothèses. Certains pensaient que ce n'était pas un cercle complexe, c'était un U. Ça participait aussi justement de l'orientation. Et bon, pour la plupart, on considérait qu'il y avait un cercle complet. Et là, grâce à la sécheresse, les fosses qui sont comblées de pierres sont réapparues. L'herbe a moins poussé, simplement parce qu'il y a moins de matière organique. D'accord. Au-dessus des fosses. Et donc, on voit très bien les fosses apparaître grâce à ces problèmes d'arrosage.
Donc, ça a donné un petit coup de pouce, finalement, aux archéologues.
Ah bah, c'est parfait pour les archéologues. Hein. C'est de la prospection aérienne à taille humaine.
Absolument. Jean-Claude, sur franceinter.fr, demande si ces découvertes, donc ces 15 monuments enfouis, permettent d'en savoir un peu plus précisément sur ce lieu et à quoi il servait. Est-ce que ça
bien entendu,
de développer
ça vient alimenter en fait des hypothèses hein, qui ont été proposées il y a maintenant une vingtaine d'années par plusieurs personnes qui pensent que Stonehenge est avant tout un lieu des morts, voilà, une vaste nécropole. Mm-hmm. Et parmi ces nouvelles découvertes, il y a à nouveau des tombes. Donc, ça vient renforcer cette hypothèse d'un paysage figé, pas figé, non, parce que ça évolue dans le temps, mais un paysage réservé uniquement au domaine funéraire. Déjà, sur Stonehenge même, on savait qu'il y avait des incinérations, il y avait des individus qui étaient enterrés. Et là, c'est des éléments en plus qui permettent de savoir qu'autour aussi, il y a ce paysage qui est densément occupé par le domaine funéraire.
Ouais, il y a des tombes très particulières aussi sur ce site.
C'est extrêmement varié. Hein, et il y a un gros problème, c'est que comme c'est en Angleterre, on voit assez bien les monuments. Il y a plusieurs qui ont été pillés au 19e siècle. Donc, on n'a pas toutes les informations sur la typologie des chambres funéraires, etc. Je vous passe les détails de la soupe des archéologues. Mais voilà, il y a une variété très importante. Il y a sûrement une chronologie aussi très importante. Les premières inhumations datent même d'avant Stonehenge, puisqu'on a un cursus, un long monument qui date d'environ 3000 avant Jésus-Christ, donc dans plein néolithique anglais. Et autour de ce monument, il y a des incinérations qui sont greffées, etc. etc. Donc il y a une longue histoire sur plusieurs millénaires, et Stonehenge fait partie de cette histoire.
Ouais, il paraît qu'il y a la tombe du roi de Stonehenge, qui est l'une des plus connues.
C'est un nom qui n'est plus trop utilisé maintenant, c'est l'archer d'Amesbury, en fait. C'est une découverte qui a été faite au début des années 2000, en 2002. Mmh. Un individu enterré avec énormément de matériel, ce qu'on appelle un individu qui date de la culture campaniforme. C'est un individu qui était enterré avec des pointes de flèches, des vases, un poignard en cuivre. Et c'est une tombe qui a fait grand bruit à l'époque parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel, ce qui dénotait complètement par rapport aux autres découvertes faites dans le secteur. L'autre intérêt, c'est qu'on a pu faire des mesures chimiques sur les dents, par exemple, pour avoir les isotopes de l'oxygène. Et on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas local. Voilà, c'est quelqu'un qui est né dans les Alpes suisses, Autriche, Allemagne, et qui est venu comme ça à Stonehenge, qui est resté sur place, qui est mort. Ouais. Et à côté, on a trouvé une autre tombe qui est en filiation directe et qui est né sur place. Voilà. Donc il y a des gens qui viennent de loin qui s'installent à Stonehenge.
Bon, en tout cas, ça attire toujours autant de monde. 1 million de visiteurs par an. Hein. Donc ça, c'est ouais. beaucoup. Ça pose un problème pour la préservation du site
c'est
ou pas ?
C'est plus que problématique. On va se ouais. retrouver dans le même cas de Karnak où le nombre de touristes qui vient sur le site écrase peu à peu le sol, tout simplement, et ça fragilise le site.
Merci beaucoup Cyril Marcini pour ces explications à l'occasion donc, de la découverte de ces 15 monuments enfouis à Stonehenge, l'objet également d'une publication cette semaine. Avez-vous déjà entendu parler de la microfluidique ? Ben vous allez en entendre parler de plus en plus, en tout cas. Vous connaissiez Cyril Marcini, la microfluidique ou pas ?
Pas du tout.
Non, mais moi non plus.
C'est un domaine que je découvre.
Je vous rassure, Jean-Claude Manuguera connaissait, hein, je crois.
Oui, moi, je suis fasciné.
C'est vrai ?
Oui.
Pourquoi ça vous fascine ?
Oui, parce que j'espère qu'on va pouvoir faire plein de choses avec ces instruments qui vont être... présenté.
En virologie, hein, ça pourrait être très intéressant.
Oui, très très ouais. intéressant.
Ouais. Alors c'est une science donc, hein, en plein essor, qui va se doter d'un nouveau lieu à Paris au sein de l'Institut Pierre-Gilles de Gênes dans le 5e. Et la première pierre de ces 6000 mètres carrés dédiés donc à la recherche et à l'innovation a été posée lundi en grande pompe. Et sur la bâche où se déroulent les travaux, on peut lire l'inscription suivante, la révolution microfluidique au service de l'homme, avec le portrait de Pierre-Gilles de Gênes. Patrick Tabling, vous êtes donc le directeur de l'Institut Pierre-Gilles de Gênes. Élodie Briant-Litzler, vous êtes biochimiste et vous travaillez également à l'ESPCI en tant que chargé de recherche et de développement. Et vous travaillez aussi sur un projet qui s'appelle DigiDiag, qui cherche à mettre au point des puces microfluidiques. C'était donc lundi. Patrick Tabling, racontez-nous un peu ce qu'est ce lieu quand même et ce qu'est la microfluidique.
Alors la microfluidique, en fait, c'est très simple. C'est la science de la manipulation des fluides à l'échelle micrométrique.
Ouais.
Alors, c'est une science que les animaux, les arbres... Le monde humain, le monde de la vie connaissait très bien et contrôlait de manière tout à fait remarquable. Et je pense que c'est une des raisons, une des conditions pour lesquelles la vie a pu se développer. Et ce n'est que récemment que l'homme s'est emparé en quelque sorte de ce savoir-faire, de cette technologie.
Ouais.
Évidemment, on n'a pas imité totalement la nature, on a fait des systèmes nouveaux et la possibilité précisément de contrôler le fluide est assez nouvelle et a donné lieu à des applications qui, de notre point de vue, vont révolutionner un grand nombre de domaines.
Ouais, et c'est déjà en activité, hein, parce qu'il y a un marché très très fort. Oui. Ça représente, vous me disiez, 6 milliards de dollars dans le monde déjà ?
Oui, alors le marché annuel de la microfluidique, c'est environ 6 milliards de dollars par an.
Mmh.
Et c'est un marché qui va croître et qui touche toutes sortes de domaines. Alors le domaine biomédical en priorité,
oui.
mais également le domaine de la cosmétique, le domaine du génie chimique, de la pharmacie, etc. Ouais. etc.
Alors, on est à quelle échelle alors exactement ?
Alors on est à l'échelle de quelques microns, du micron pour simplifier.
Oui.
Alors pour se représenter cette échelle, il faut imaginer un cheveu. Et un cheveu fait à peu près 100 microns de diamètre. Donc les fluides qu'on va faire circuler dans les micro-canaux que l'on va analyser eh bien, vont circuler dans des dispositifs de telle taille.
Ouais.
Alors 100 micromètres, c'est une échelle très intéressante. Parce qu'à cette échelle-là...
Il se passe des choses.
C'est il se passe des choses, hein. Il y a des choses qui sont supprimées. Par exemple, quand vous faites circuler un fluide dans un micro-canal, imaginez que votre cheveu est un tube creux dans lequel vous faites circuler un liquide, eh bien, vous aurez beaucoup de mal à générer un tourbillon. Il n'y a plus de turbulence à cette échelle-là. Les fluides s'écoulent de manière laminaire, et ça, c'est très important, parce que ça permet de les contrôler. Ça permet de les contrôler de manière très fine, un peu comme l'araignée le fait lorsqu'elle tisse sa toile. L'araignée, pour tisser sa toile, elle sécrète des protéines et puis elle fait circuler le long de l'arrière de son corps et puis les mélange. Et c'est le mélange qui produit la solidification qui ensuite produit la toile d'araignée.
Elle fait de la microfluidique, l'araignée ?
C'est totalement de la microfluidique.
Ouais.
C'est totalement de la microfluidique. Et s'il y avait, par exemple, dans ce système des tourbillons de la turbulence, l'araignée serait dans l'incapacité totale de contrôler la réaction chimique et ça ferait des toiles d'araignée assez catastrophiques.
Ouais. Élodie Briant-Litzler, en tant que biochimiste... Pourquoi ça vous intéresse autant, la microfluidique ? Parce que vous m'avez rapporté des petites pipettes alors très classiques, c'est old fashion, on pourrait dire quasiment, ouais. utilisées donc par les chimistes. Et puis là, juste à côté, donc, il y a ces systèmes microfluidiques.
Oui, effectivement, peut-être l'idée principale à retenir, c'est qu'on dispose enfin, grâce au dispositif microfluidique, de tubes à essai, qui ont une taille appropriée pour les objets biologiques que sont les cellules. Donc, micro-organismes, cellules, du micron à quelques dizaines de microns. Et donc, effectivement, pour vous rendre compte du gain apporté par la microfluidie que je vous ai apporté,
il faut le décrire pour les auditeurs.
C'est microtubes. Ouais. Donc, si vous voulez des ordres de grandeur, en biochimie classique, on va travailler avec des volumes entre un microlitre. Donc, un microlitre, c'est un cube d'un millimètre de côté, et un millilitre, donc un cube d'un centimètre de côté. Et donc, avec des contenants qui sont de l'ordre du centimètre de manière classique. Quand on passe au format microfluidique, on gagne 6 ordres de grandeur. Donc, c'est 1 million de fois plus petit. Et on peut travailler avec des volumes qui sont entre le picolitre et le nanolitre.
Le picolitre, on est nombreux à apprendre un nouveau mot, en tout cas, aujourd'hui.
1 million de fois plus petit que le microlitre. Ouais. Et donc, la possibilité dans ces compartiments, qui font une dizaine de microns de diamètre, d'étudier des cellules ou des bactéries uniques, et en adaptant tout l'arsenal de méthodes d'analyse biochimique classique à ces nouveaux formats. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on réalise que la plupart des populations de cellules ou de micro-organismes dans les écosystèmes, dans le corps humain, sont des populations hétérogènes, où une cellule ne fait pas la même chose que sa voisine, et justement, les cellules vont pouvoir communiquer entre elles. Oui. Et à l'heure actuelle, dans des formats classiques, on va réussir uniquement à analyser quelques centaines, milliers de cellules ensemble. Et la mesure qu'on fait, c'est une moyenne de ce que font toutes ces cellules. Donc on n'arrive pas à voir finement...
Donc ça, c'est avec la pipette classique, en fait, hein, c'est ça.
Voilà. On n'arrive pas à voir finement ce que fait chacune des cellules. Et donc, parfois, à comprendre des phénomènes un peu complexes de ce qui peut se passer dans les tissus ou dans des écosystèmes de micro-organismes.
Et là, quand on est dans ce domaine de la microfluidique, donc on l'expliquait avec Patrick Tabling tout à l'heure, il se passe des choses tout à fait spécifiques qu'on n'a pas habituellement, en tout cas quand on est à des échelles plus importantes.
Alors nous, on va utiliser en fait ces effets spécifiques pour pouvoir contrôler les flux et générer en fait à très haut débit des compartiments d'analyse qui sont en fait des petits tubes à essai pour les réactions biochimiques. Et la stabilité offerte par les systèmes microfluidiques permet de le faire avec des débits absolument incroyables. Donc on est capable de générer des petites gouttes à des fréquences de 1000 par seconde, typiquement d'en manipuler des millions par expérience. Ouais. Et ça, c'est absolument fascinant parce que on a vraiment la possibilité de faire en quelques jours autant d'analyses biochimiques qu'on en faisait peut-être en un an. Et aussi au niveau du coût, on va utiliser beaucoup moins de réactifs et on va pouvoir faire en quelques jours pour quelques euros ce qu'on aurait pu faire en un an et des millions d'euros.
Alors Patrick Tabling, soyons concrets, donnez-nous des exemples d'applications issues directement de la microfluidique pour que les auditeurs comprennent bien à quoi ça pourrait servir, en quoi c'est une vraie révolution quand même.
Par exemple, dans le domaine du diagnostic, vous avez actuellement des diagnostics qui sont faits sur des puces microfluidiques qui permettent d'analyser des petites quantités en un temps très court, de ne pas devoir passer par les laboratoires, donc avoir le résultat également très rapidement. Mm-hmm. En fait, quand on miniaturise l'espace, on miniaturise aussi le temps. C'est-à-dire que les résultats sont donnés avec grande rapidité et grande fiabilité. Alors, par exemple, la société Abbott a vendu une dizaine de millions de puces qui sont distribuées dans les cliniques et dans les hôpitaux pour analyser le taux de glucose, pour détecter par exemple des protéines comme la troponine et puis aussi des choses plus complexes à détecter comme le virus du sida. Oui. Et tout cela peut se faire sur une puce et on sent bien que dans l'avenir, eh bien, on va de plus en plus utiliser ces techniques parce qu'elles vont réduire le coût des dépenses médico-hospitalières qui pour les sociétés représentent une charge très très importante.
Jean-Claude Manuguera, en tant que virologiste, on parlait du virus Ebola avec vous, ça peut vous intéresser cette méthode issue de la microfluidique?
Oui, beaucoup d'ailleurs.
Qu'est-ce que ça pourrait changer à votre façon de travailler et qu'est-ce que ça pourrait changer à la maladie elle-même, enfin au virus lui-même?
Alors, pour l'instant, la détection du virus de manière extrêmement sensible se fait dans des laboratoires spécialisés. Le problème, c'est qu'il y a le temps de transport et puis il n'y en a pas partout. Mm-hmm. L'idée, c'est d'avoir la précision de ces techniques-là au pied du malade. Et ça pourrait être une solution et je pense qu'on va discuter après l'émission.
Bon, bah très bien, oui. Patrick Tabling, il y a des promesses
oui,
en tout cas dans ce domaine.
Des technologies papier qui est justement très adaptée pour les milieux d'accès difficiles avec très peu de moyens, les pays en développement, qui se développent. C'est une nouvelle technologie qui peut intéresser le problème de l'Ebola. Et puis dans d'autres domaines aussi, par exemple en génie chimique, le fait de réduire la taille des objets, eh bien, c'est forcément, ça devient isotherme. Oui. Il n'y a plus de variation de température, on peut produire des produits, synthétiser des produits de manière beaucoup plus contrôlée. Donc tout le génie chimique est impacté par cela. On a aussi le domaine même cosmétique. Dans une crème cosmétique, vous avez des gouttes qui sont de taille micrométrique. Donc, et de la vectorisation, même dans le milieu pétrolier, où maintenant, et on va faire des analyses, et on les fait déjà in situ sur le terrain, plutôt que d'envoyer l'échantillon à des milliers de kilomètres.
On dit que la microfluidique va être à la biologie, ce que les microprocesseurs ont été à l'informatique en termes de calcul et de rapidité. C'est exactement ça l'image
hein ? Oh, absolument, elle est tout à fait correcte. On s'est maîtrisé les électrons, maintenant il s'agit de maîtriser les fluides à petite échelle.
Voilà, et les Français donc, se positionnent évidemment dans ce domaine, avec l'Institut Pierre-Gilles de Gênes qui est en travaux donc, pour offrir 6000 mètres carrés autour de ce secteur à partir de l'année prochaine. Hein.
Elle a été créée en 2011, financée par l'ANR, dans le cadre du projet des grands investissements, et la mairie de Paris, qui a beaucoup contribué, puis d'autres organismes également. Et elle a déjà créé 6 start-up.
Bon, bah c'est formidable. Et on le disait, donc 6 milliards de dollars déjà de chiffre d'affaires par an, rien qu'avec ce domaine de la microfluidique qui n'a pas fini de faire entendre parler de lui. Merci beaucoup en tout cas à tous pour votre venue et vos explications dans le club des Têtes au Carré. Dans un instant, on retrouvera Fabrice Ourel qui nous présentera Affaires Sensibles. Le nouveau Robert Plant à l'instant sur France Inter. Fabrice Drouel vient de faire son entrée dans ce studio. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu.
Avec Affaires Sensibles dans quelques instants et le vendredi.
C'est formule, la fiction. Voilà. C'est la fiction autour de Boris Vian. Vous avez lu L'écume des jours, j'imagine, comme tout le monde. Hélas. Vous avez lu J'irai cracher sur vos tombes. Ça, c'est bien.
Il y a longtemps aussi, oui.
Écrit sous le nom, le pseudo Vernon Sullivan. Ouais. C'est quoi cette histoire de pseudo?
Eh ben, vous allez nous le raconter. Exactement. Dans un instant, Affaires Sensibles.
Tout à fait.
Après les infos et pour démarrer le week-end en votre compagnie. Merci Fabrice, à tout à l'heure.
Au revoir.